Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Clémence Gouthière, je suis neurologue dans le service de Monsieur Pelletier et on va commencer donc cet après-midi par une présentation sur qu'est-ce que la sclérose en plaques. Donc, tout d'abord, la sclérose en plaques, c'est une maladie fréquente puisqu'il y a environ 100 000 personnes qui sont touchées par cette maladie en France, avec une incidence de 2500 nouveaux cas de sclérose en plaques par an en France. C'est une maladie qui débute le plus souvent chez l'adulte jeune, entre 20 et 30 ans, avec bien sûr des formes qui peuvent débuter plus précocement ou plus tardivement. Donc c'est une maladie qui touche plus souvent la femme, puisqu'on dit qu'en général, il y a 3 femmes atteintes pour un homme atteint. Donc si on doit donner une définition de la maladie, donc on dirait que c'est une maladie inflammatoire, démyélinisante, du système nerveux central. Et donc on va revenir un petit peu sur tous ces points. Donc le système nerveux central, qu'est-ce que c'est? Le système nerveux central, donc il comprend le cerveau, le nerf optique et la moelle épinière, d'accord? Donc là, je sais pas s'il y a un pointeur, voilà. Donc là, en jaune, vous avez le cerveau et la moelle épinière qui ensuite vont donner les nerfs et qui vont aller jusqu'à la périphérie, donc à la peau, aux muscles, à la vessie, pour transmettre les informations. Mais donc le système nerveux central, c'est le cerveau, avec le nerf optique et la moelle épinière. Et donc, les principales cellules du système nerveux central, si on zoome un petit peu, eh bien, il y a 2 principaux types de cellules dans le système nerveux central. Donc, il y a les neurones qui ont pour rôle de transmettre l'information jusqu'à la périphérie, donc aux muscles, à la peau, à la vessie, etc. Les oligodendrocytes, c'est la deuxième cellule importante du système nerveux central, et c'est les oligodendrocytes qui fabriquent la myéline. Donc là, vous voyez le neurone hein, avec son corps et un prolongement qui s'appelle l'axone. Et donc ce prolongement, il est entouré d'une gaine de myéline qui, je vous l'ai dit, donc est fabriquée par l'oligodendrocyte. Donc cette gaine de myéline, elle a 2 principales fonctions importantes, un rôle protecteur pour le neurone, d'accord, et un rôle d'accélération de la conduction le long des neurones jusqu'à la périphérie. Et donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va mettre en jeu le système immunitaire. Et donc, dans la sclérose en plaques, par des mécanismes qui sont pas très bien connus, le système immunitaire va se dérégler. Et donc, il y a les cellules du système immunitaire qui sont les lymphocytes, c'est les globules blancs, d'accord, qui vont sortir du sang, pénétrer dans le système nerveux central, où là, ils vont se multiplier et provoquer de l'inflammation. Et c'est cette inflammation qui va dégrader la gaine de myéline. Donc là, vous voyez ici que les lymphocytes, les globules blancs, ils vont aller attaquer la gaine de myéline et donc la dégrader. C'est ce qu'on appelle donc la démyélinisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand la gaine de myéline est atteinte? Donc, je vous ai dit qu'elle jouait un rôle d'accélération de l'influx de l'information. Donc, si elle est atteinte, il va y avoir un ralentissement ou un blocage de la conduction de l'information. C'est-à-dire que l'information élaborée par le cerveau ne va pas pouvoir être transmise jusqu'à la périphérie. Et c'est ça qui va entraîner les symptômes de la sclérose en plaques. Donc ensuite, il va y avoir des mécanismes de réparation qui vont se mettre en place pour aller réparer de façon plus ou moins complète la myéline. C'est ce qu'on appelle la remyélinisation. Donc ces mécanismes régénératifs de réparation de la myéline, ils sont inconstants et variables d'un individu à l'autre pour des raisons qui sont inconnues. Et c'est quand même une piste thérapeutique, mais pour l'instant, qui en est vraiment au stade très, très précoce. Je vous ai dit que la sclérose en plaques, c'était une maladie de la myéline, mais il peut y avoir aussi une atteinte du neurone. Donc, soit au niveau des plaques de démyélinisation, là où la myéline est altérée, puisque je vous ai dit que la myéline avait un rôle d'accélération de l'information, mais également un rôle protecteur pour le neurone. Et donc, si la myéline est abîmée, eh bien, ce rôle protecteur ne va plus être assuré. Et donc, il peut y avoir une souffrance des neurones. Et après, il y a des études un peu plus récentes qui ont montré qu'à distance des plaques, il pouvait y avoir une petite inflammation chronique, un peu à bas bruit, et qui, elle aussi, peut entraîner une souffrance des neurones. Donc l'étiologie de la sclérose en plaques. Donc la cause exacte, bien sûr, elle n'est pas connue, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir pour que la maladie se développe. Donc la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie génétique, mais on sait qu'il y a quand même des facteurs de susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui jouent un rôle et qui vont donner une susceptibilité à la maladie, mais à eux seuls, ils ont un rôle très très faible dans le risque de développer la maladie. Et en fait, il y a d'autres facteurs non génétiques, dits des facteurs environnementaux, qui vont intervenir pour faire que la maladie se développe. Donc ces facteurs environnementaux, il y en a probablement des centaines, on ne les connaît pas tous. On pense qu'il y a un rôle d'un virus qui s'appelle le virus de l'EBV, qui est le virus qui donne la mononucléose infectieuse. Probablement qu'il y a aussi un rôle du tabac, puisqu'on sait que le tabac est pro-inflammatoire et qu'il y a des études qui ont montré que les personnes qui fumaient avaient plus de risques de développer une sclérose en plaques, mais c'est aussi vrai pour d'autres maladies inflammatoires que la sclérose en plaques. Et un rôle de la vitamine D, et plus précisément de la carence en vitamine D, parce que donc, vous savez que la vitamine D, elle est apportée par le soleil, et on a mis en évidence que la fréquence de la sclérose en plaques était différente en fonction du taux d'ensoleillement, c'est-à-dire que dans des zones qui sont très fortement ensoleillées, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, la sclérose en plaques est une maladie qui est très rare. Voilà, donc il y a probablement d'autres facteurs qui interviennent, mais qui ne sont pas encore connus et qui restent à découvrir. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment une maladie multifactorielle et qui nécessite beaucoup de facteurs pour se développer. Donc comment se manifeste la maladie? Donc le plus souvent, la maladie va se manifester sous la forme de poussée. Donc qu'est-ce qu'une poussée? Une poussée, c'est l'apparition de symptômes neurologiques. Ces symptômes, ils sont très variables puisqu'ils vont dépendre de la localisation de l'inflammation à un moment donné. Puisque vous savez que le cerveau, il a plusieurs régions, la moelle épinière aussi, et chaque région a une fonction bien précise. Et donc, en fonction de là où va être localisée l'inflammation, les symptômes vont être différents. Donc, c'est des symptômes qui vont s'installer de façon rapide, en général en quelques heures, quelques jours, qui durent plus de 24 heures, donc plus d'une journée, et qui surviennent en dehors de toute fièvre ou toute infection. Et ensuite, en général, ils vont s'améliorer en quelques semaines ou quelques mois. Donc les symptômes peuvent être très variables, je vous l'ai dit, en fonction de la localisation de l'inflammation. Donc ça peut être une faiblesse musculaire, ça peut être des troubles de l'équilibre, ça peut être des troubles de la sensibilité avec une perte de sensibilité ou au contraire de l'apparition de fourmillements. Ça peut être des troubles de la vue, des troubles du transit avec une constipation, des troubles urinaires. Ou encore des symptômes un peu moins visibles comme une fatigue ou des troubles, des difficultés de concentration. Donc bien sûr, tous ces symptômes ne vont pas tous se développer hein, chez une même personne, mais là, je vous dis en général ce qui peut survenir dans le cadre de la maladie. Donc l'évolution de la maladie, l'évolution est très variable hein, d'un patient à un autre. Ça, c'est l'évolution naturelle, donc sans traitement. Donc la plupart du temps, la maladie commence par des poussées qui se répètent dans le temps. C'est ce qu'on appelle la forme récurrente. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il y a une poussée, c'est-à-dire il y a des symptômes qui apparaissent, puis qui vont s'améliorer. Ensuite, il y a une période libre de poussée et une deuxième poussée qui survient, qui récupère, etc., etc. Et si on laisse évoluer la maladie, qu'on ne traite pas, le risque, c'est que les poussées se poursuivent et qu'elles laissent des séquelles, que la récupération ne soit pas complètement totale. Et si on laisse s'accumuler les poussées, on laisse aussi s'accumuler les séquelles. Ensuite, chez certains patients, après plusieurs années de l'évolution de la maladie, il peut survenir une progression des symptômes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas survenir de façon rapide sur 24 heures comme dans une poussée, mais il va y avoir une gêne qui peut s'aggraver petit à petit sur une période de plusieurs mois, voire années. Et dans un nombre assez rare de cas, la maladie commence d'emblée par une aggravation progressive des symptômes. Alors ça, maintenant, c'est une classification qui est un petit peu obsolète, puisque c'était l'évolution qui était classique décrite sans les traitements. Maintenant, ce à quoi on s'intéresse surtout, c'est le concept d'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'activité ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Donc l'activité, elle peut être clinique, donc soit la survenue d'une poussée, soit l'aggravation de symptômes. Mais l'activité, elle peut aussi être radiologique sur l'IRM, avec l'apparition de nouvelles lésions ou des lésions récentes, des lésions actives. D'accord ? Et c'est ça qui est important et qui va intervenir dans la décision des traitements, etc. Donc comment on fait le diagnostic de sclérose en plaques ? Donc bien sûr, c'est de la clinique. Et on va s'aider d'examens complémentaires, donc de l'IRM, qui a un rôle capital dans le diagnostic de la maladie, mais aussi dans le suivi, vous verrez. On peut s'aider de la ponction lombaire. Et bien sûr, il faut éliminer les autres maladies qui peuvent ressembler à la sclérose en plaques. Et donc, il faut qu'on montre qu'il y a une inflammation disséminée dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire plusieurs symptômes différents qui surviennent à des moments différents dans le temps. Donc l'IRM, je vous ai dit, c'est indispensable au diagnostic de sclérose en plaques. Et très souvent, on va injecter un produit de contraste qui s'appelle le gadolinium. Donc c'est le gadoviste ou le dotarem, hein, selon où vous passez les IRM. Et ce gadolinium, il est important parce qu'il permet de faire la différence entre les lésions qui sont récentes, qui ont en général moins de 3 mois, puisque ces lésions, elles vont être rehaussées par le gadolinium. Là, vous voyez, c'est blanc. C'est le gadolinium qui rehausse les lésions. Alors que les lésions qui sont anciennes, elles ne sont pas rehaussées par le gadolinium. Après, une lésion qui est ancienne, dire si elle a 6 mois ou 6 ans, ça, c'est malheureusement quasiment impossible. Donc, l'IRM, elle peut montrer donc, le fait qu'il y ait plusieurs régions qui soient atteintes, que donc, la maladie est disséminée dans l'espace. Donc, elle va montrer les plaques sous la forme de taches blanches, vous voyez. Donc, certaines plaques peuvent être silencieuse, c'est-à-dire qu'on va faire une IRM, on va découvrir une nouvelle plaque sans que le patient ait présenté de symptômes. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de faire des IRM. Et il faut savoir que, en général, les plaques, elles vont persister, même s'il y a réparation, même s'il y a remyélinisation, comme une cicatrice, hein, comme quand on se coupe au niveau de la peau, et bien après la peau elle se referme, elle se répare, mais souvent ça laisse quand même une cicatrice. Donc quand on fait une IRM, toutes les plaques qu'on voit, c'est pas forcément des nouvelles images, mais il y a des lésions qui sont anciennes et qui sont des cicatrices. Donc là vous voyez plusieurs régions, au niveau du cerveau il y a plusieurs plaques, il y a une plaque au niveau du nerf optique, il y a une plaque au niveau de la moelle épinière. Et ensuite, donc je vous ai dit que c'était aussi une maladie évolutive, donc c'est pas un seul épisode unique à un moment de la vie. Donc soit la preuve que c'est une maladie qui évolue dans le temps, on peut la voir si la personne a présenté plusieurs symptômes neurologiques au cours de sa vie, mais parfois il n'y a eu qu'un seul épisode neurologique, et là l'IRM elle va nous aider à montrer qu'en fait il s'est passé plusieurs choses, mais qui sont peut-être passées inaperçues. Donc ça on peut le voir soit sur une seule et même IRM réalisée à un moment donné, parce qu'on voit qu'il y a des plaques qui sont anciennes, qui ne se rehaussent pas, qui restent noires quand on injecte le gadolinium, alors qu'il y a des plaques qui se rehaussent quand on injecte le gadolinium. Ça veut dire qu'il y a des choses anciennes et des choses récentes sur la même IRM. Ou soit, on peut, si on n'a pas ce critère-là dès la première IRM, on va répéter les IRM dans le temps pour mettre en évidence l'apparition de nouvelles plaques. Et donc, bien sûr, l'IRM, elle a également un rôle très important dans le suivi du traitement pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles images qui apparaissent. Ensuite, un autre examen qui est important, c'est la ponction lombaire, puisqu'elle va apporter, elle va mettre en évidence l'inflammation dans le système nerveux central par un marqueur particulier qui est présent dans plus de 90% des cas. Alors après, ce marqueur, il n'est pas spécifique de la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver dans d'autres maladies inflammatoires, mais c'est quand même un argument fort. Et aussi, la ponction lombaire, elle va nous aider parce qu'elle peut parfois éliminer d'autres maladies qui peuvent ressembler à la sclérose en plaques. Et donc, ça va nous aider aussi pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Clémence.